Bonjour à toutes et à tous. Notre semaine avignonnaise se poursuit en direct du festival In et Off. À 13h30, l'actrice Yam Abbas viendra nous parler de Plaidoyer pour une civilisation nouvelle, spectacle adapté de textes de la philosophe Simone Veil qu'elle interprète au Théâtre des Halles. Mais avant cela, envolons-nous vers un autre théâtre, la chapelle des pénitents blancs, métamorphosée en ruche pour cause de festival. Le spectacle La République des abeilles donne vie sur les planches à l'essai scientifique et philosophique de l'auteur Maurice Maeterlinck. Ce dernier comparait les abeilles à un peuple, une étrange petite république si logique et si brave, si positive, si minutieuse, si économe et cependant victime d'un rêve vaste et précaire. Alors les abeilles sont-elles un modèle, une métaphore anthropomorphe, un miroir fidèle ou inversé de notre condition? La plasticienne et metteuse en scène Céline Schaeffer et la comédienne Marion Le Guével sont ici dans la cour de l'université Pasteur pour en parler. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Besserie.
Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors cette histoire d'abeilles, ça a commencé par une rencontre littéraire, littéro-scientifique, justement, Céline Schaeffer, avec Maeterlinck.
Oui, c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais en tournée avec Valère Novarina et je suis tombée, je me suis plongée dans l'œuvre de Maurice Maeterlinck, un auteur que j'aime beaucoup. Que j'avais rencontré au théâtre, notamment avec les beaux spectacles de Claude Régis. Et je suis tombée sur cette œuvre dite de nature, qui s'appelle donc La vie des abeilles.
Qui est un essai.
C'est un essai. Dans une foire au livre à Strasbourg. Et j'ai tout de suite eu un choc à la lecture de ce livre. Pas tant. Déjà, j'ai découvert la ruche. Parce que je ne connaissais pas ce milieu, cette vie. Et donc j'ai découvert à travers cet essai La vie des abeilles. Et ce qui m'a fascinée, c'est justement cette langue poétique que j'aimais tant dans son théâtre. Et là, à l'épreuve de la ruche. Parce qu'il avait des ruches. Et il les observait et c'est extrait de cette observation très concrète. Et de ce qu'il connaissait à l'époque aussi de l'apiculture.
Alors on va donner quelques éléments justement sur le texte. C'est à la fois un essai de vulgarisation scientifique, un essai relativement précis.
Alors oui.
Sur la vie des abeilles et qui en même temps s'intéresse au prolongement éventuellement philosophique, en tout cas à l'observation des abeilles comme des êtres sociaux.
Oui, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'écriture du spectacle, j'ai nommé La République des abeilles. Il y a un glissement, en effet, entre La vie des abeilles, texte de Maurice Maeterlinck, qui est le spectacle, qui s'appelle La République des abeilles, justement pour raconter dans ce titre même que ce sont des insectes sociaux dont on parle. Maurice Maeterlinck, en effet, était extrêmement précis et avait une très grande connaissance pour son époque, de ce qu'on connaissait à ce moment-là de l'abeille. Et tout ce qu'il dit dans ce livre est juste par rapport à l'époque. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui le sont moins. On a une connaissance encore plus approfondie, on sait des choses sur l'abeille qu'il ignorait à ce moment-là, parce que c'est un texte qui a été écrit en 1901. Mais en effet, une grande précision et en effet... Il y a un côté, comme on retrouve dans l'écriture de Maeterlinck, mais il y a une grande métaphore aussi et il nous renvoie à notre société. Il y a un miroir.
Avec la question des représentations, Marion Le Guével, spontanément, intuitivement, d'un point de vue chorégraphique, qu'est-ce que ça vous évoquait les abeilles avant de vous mettre à travailler dessus et d'imaginer ce que ça peut faire justement d'un point de vue de l'organisation scénique, du corps?
Les abeilles ont tout de suite évoqué une poétique dans le ballet qu'elle nous propose quand on prend le temps de les observer. Ce sont des danseuses, exactement. Ce sont des danseuses qui n'ont pas de formation chorégraphique, mais qui ont la danse en elles, parce que c'est vital pour elles, en fait, de danser, parce qu'elles se donnent des informations. Ça, je l'ai appris un petit peu après en plongeant dans leur histoire. Mais en fait, la danse, effectivement, pour elles, est une nécessité et quelque chose de vital, parce que si elles ne se C'est comme ça qu'elles se transmettent des informations. Donc c'est quand même assez fascinant. Elles se donnent les informations pour savoir où se trouve l'abondance du nectar. Elles se donnent des distances. Et tout ça se crée autour de danses qui sont très, très, très précises. Donc ça a été d'ailleurs le point initial de travail avant de transposer, bien sûr, leur danse pour
le spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher les passages de l'ouvrage de Maeterlinck qui parle de ce génie du corps des abeilles, de ce langage.
Alors, il y a des extraits,
qui passent par la danse, par le vol.
Ouais, il y a aussi, des vidéos, en fait, qui ont été faites par un scientifique qui s'appelle, Céline, tu vas me...
Carl von Frisch.
Voilà,
Carl von Frisch. Celui qui a découvert la danse frétillante.
Exactement. Voilà.
Et il y a une très vieille vidéo en noir et blanc, mais très jolie, qu'on trouve, où il a filmé justement ce moment de la danse où l'abeille est sur le bord du rayon et cette danse en rond, cette danse frétillante qui est le message qu'elle envoie aux autres abeilles de la ruche qui se trouvent au fond. Et par un système de fréquences qui passe par les rayons, elle se donne la communication comme ça et les autres abeilles sortent, s'avancent près de la ruche et ont les informations de où, comme disait Marion, exactement se trouve l'endroit du pollen et où sont les fleurs.
Donc il y avait une sorte de poésie naturelle à la fois de la lumière, de l'usage de la lumière, de l'organisation, mais aussi justement de la manière de se mouvoir. Je vous propose d'écouter Jean Rostand qui parle de l'ouvrage « La vie des abeilles » de Maeterlinck et c'était en janvier 1964.
Ouvrage de vulgarisation, bien sûr. Ces livres d'histoire naturelle sont d'abord cela, puisque par eux, Maeterlinck révèle au grand public une foule de vérités dont il n'a pas lui-même fait la découverte. Tâche qui, au demeurant, ne va pas sans mérite, quand le vulgarisateur, comme c'est ici le cas, sait choisir parmi la masse compacte des faits ceux qui ont valeur et signification, quand il a eu le don de les ordonner, de les éclairer les uns par les autres, et surtout quand il possède le talent de les exposer en un beau langage précis, imagé, accessible à tous. Mais qui aurait le mauvais goût ou la mauvaise foi de penser que le terme de vulgarisation suffise à définir de tels ouvrages et qu'il n'y entre pas des mérites d'un tout autre ordre et plus élevé? Comment voudrait-on que le génie de Maeterlinck, son génie de prosateur, de moraliste, de poète, n'intervint pas en ces livres qui, à vrai dire, sont de genre inclassable, comme le sont tant de chefs-d'œuvre. Entre les trois volets du fameux triptyque, vie des abeilles, vie des fourmis, vie des termites, c'est assurément le premier qui nous semble à tous égards le plus admirable, car Maeterlinck connaissait d'expérience directe et de longue date les abeilles. Il les a assidûment pratiquées, et il nous fait partager l'émotion qu'il éprouve au spectacle de la frémissante cité.
Alors, on entend justement dans cet extrait de Jean Rostand que le travail a été fait d'une certaine manière par Maeterlinck, qui lui-même a vu la créativité justement dans ce travail des abeilles, a fait ce travail d'observation et vous a donné déjà les clés de ce qui pouvait faire spectacle chez les abeilles.
Oui.
Céline Schaeffer.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, hier, après la première, on s'est retrouvés toute l'équipe et je leur disais ce qui est très émouvant. Pour moi, c'est que, et ce qui était très important dans le travail de mise en scène par rapport à ce point de départ qui était cette émotion que j'ai ressentie en lisant ce texte, c'était d'arriver dans mon travail de metteur en scène à replacer le spectateur exactement à cet endroit dans lequel j'étais quand j'ai lu le texte de Maeterlinck.
C'est-à-dire celui de l'observateur?
Celui de quelqu'un qui découvre cette vie, cet émerveillement et dont les mots poétiques, dont le langage poétique donne une vision. Voilà, et de retranscrire cette vision qui était très personnelle parce que chacun y voit ce qu'on veut quand on lit. Mais c'est vrai que, voilà, Maeterlinck, sur les épisodes, que ce soit l'essaimage, le vol nuptial, la naissance de la reine, la façon dont il parle, dont il raconte cette histoire, il y a à la fois, je ressentais Shakespeare, il y a des moments, voilà, j'avais des visions du théâtre japonais, il est toute cette matière poétique me renvoyait à des choses qui étaient très fortes et très claires.
Alors d'un point de vue théâtral, on comprend bien, d'autant plus qu'il y a une unité qui se dégage assez facilement, puisque vous suivez une année dans une ruche, donc il y a une unité comme ça, comme un découpage qui se fait. Mais d'un point de vue de la chorégraphie, on se dit, voilà, il existe déjà 1000 représentations des abeilles, tout un lot d'images d'Épinal aussi. Alors comment faire, Marion Le Guével, pour incarner les abeilles différemment à partir du moment où on ne met pas en place des systèmes d'effets spéciaux extraordinaires qui permettent de voler au-dessus d'Avignon?
Effectivement. Alors, je ne sais pas si on a cherché à les faire différemment. On a en tout cas essayé de les trouver en nous, parce qu'effectivement, jouer l'insecte en étant un être humain, c'est un endroit assez périlleux. Mais en fait, on est allé chercher on est toujours allé chercher dans l'observation et dans les abeilles, dans la précision. Et on a toujours essayé, que ce soit en tant qu'acteur, chorégraphe, metteur en scène, de se replacer à cet endroit de l'observation, de ce que nous apportent les abeilles dans leur fonction aussi, dans le côté direct, précis. Ce sont des mots qui sont beaucoup revenus. Quel est l'objectif de ça? Pourquoi elles font ça? Et il y avait l'idée aussi d'un équilibre fragile. Elles doivent aller toujours droit au but, sinon elles mettent tout en péril. Et en fait, c'est des choses qui ont finalement aussi conduit la chorégraphie dans des lignes. Elles ont quelque chose dans la façon de se diriger qui est très, on dirait des GPS. Donc finalement, on est dans la chorégraphie, on est dans l'écriture dans l'espace, dans le temps aussi, parce qu'on a les quatre saisons. Donc elles n'ont pas les mêmes vibrations pendant les quatre saisons. À l'approche des fleurs, elles vibrent et frétillent du bassin, c'était écrit, donc il a suffi de... Alors là, je dis ça, il a suffi, on a bien sûr fait plein d'essais, plein de transpositions. Et puis, on était aussi porté par la scénographie, la vidéo, parce qu'en fait, tout ça devait faire corps tout le temps.
Alors, il faut expliquer ce dispositif, ouais, pour qu'on comprenne. Il y a un système de voix off, de narration par un grand écran et une voix off qui se dégage. Et puis, il y a aussi un personnage qui, lui, vient guider le public de manière plus directe.
Et l'ouvrier de la ruche.
L'ouvrier de la ruche.
Oui, pour moi, c'était important qui est justement dans l'équilibre de la narration. Justement ce personnage qui fait le lien avec le spectateur, qui est du côté de l'homme, mais l'homme ne sait pas. Voilà, l'homme ne sait rien à la nature, c'est la nature qui sait. L'homme, voilà, j'avais aussi envie que ce soit pas lui qui raconte tout, comme si l'homme détenait tout, savait tout sur ça. Et d'où aussi en parallèle cette voix de la nature qui est dite par Agnès Sourdillon, qui aussi raconte, et elle qui sait finalement. Elle sait que à ce moment-là de l'année, elles vont essaimer. Elle sait que là, il va falloir chasser les mâles parce que c'est la décroissance de la ruche et il va falloir faire ses réserves de miel. Voilà. Et c'est elle qui participe à l'action. Parce que comme disait Marion très justement tout à l'heure, j'étais toujours à leur dire, elles font des actions. Voilà,
c'est le travail qui les guide, hein, c'est leur tâche qui les guide.
Exactement, et il n'y a pas de psychologie, nous sommes avec des animaux. Donc en fait, j'étais toujours à essayer de, vraiment, c'est sur le fil, tout est sur le fil, et de tenir justement ce fil en disant, il faut que vous fassiez, voilà, il y a le plaisir d'accrocher une boîte sur le rayon à la fin, et moi en tant que spectatrice, j'aime voir des personnes faire des choses. Et aussi c'était un désir pour moi de replacer aussi le spectateur comme quand on est face à la nature, c'est-à-dire de s'arrêter et de regarder. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas. Et Maeterlinck, finalement, c'est ça qui nous dit, au-delà de nous raconter l'histoire. Arrêtez-vous, regardez.
Alors, il y a ce travail aussi d'évocation naturelle des abeilles, hein, objet philosophique, poétique, mais aussi philosophique. C'est l'idée du modèle, l'idée de l'organisation ensemble. Je vous propose d'écouter le philosophe Pierre-Henri Tavoilleau. C'était sur France Culture le 25 juin 2015.
L'abeille est une monarchie, parce qu'il y a une reine, à l'origine un roi. L'abeille est une aristocratie, parce qu'il y a justement une diversité au sein de la ruche, mais avec, j'allais dire, des esclaves, des métèques, c'est les faux bourdons, et puis des êtres sublimes qui sont les abeilles ouvrières, et puis le roi, bien sûr, tout en haut. C'est une république, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, le pouvoir de la reine est assez limité, donc en fait, c'est la cohabitation de tous les êtres ensemble qui assurent le fonctionnement, donc c'est une république. Et puis même dans les modèles modernes, on retrouve l'abeille encore, c'est-à-dire, est-ce que l'abeille est communiste ? Bah oui, l'abeille est communiste, bien sûr, puisque vous avez la propriété privée qui disparaît, la propriété de tous, la décision collective, donc on a un modèle communiste avec un État, le cas échéant, une structure. Oui, mais l'abeille peut être aussi anarchiste, là aussi, puisque, en fait, sans que personne n'intervienne, et par le libre jeu de la concurrence et des forces, l'ordre est parfaitement trouvé sans qu'il y ait aucune trace de domination dans cette société. Et puis, on va dire, au bout du compte, l'abeille est aussi libérale, puisque le premier grand texte du libéralisme politique au monde, c'est la fable des abeilles de Mandeville, où Mandeville, alors de façon un peu ironique, se moque justement de l'abeille vertueuse pour dire qu'en fait les bonnes abeilles, les bonnes ruches, c'est celles qui sont parfaitement vicieuses et qu'il faut que chacun individu soit extrêmement vicié et ne cherche que son propre intérêt pour que la prospérité de l'ensemble et le bien commun soient réalisés.
On entend quelques abeilles par-dessus. On voit que derrière cette question des modèles, en réalité, c'est un peu tous les modèles qui peuvent se lire dans la structure du monde de la ruche. Et à travers ça, justement, l'exemple d'une république idéale, en tout cas d'une société à la fois hiérarchisée et sans domination. C'est ce que disait justement Taolio. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Céline Schaeffer ? Est-ce que ça, c'était l'objet aussi du spectacle ? Puisque la République des abeilles, vous avez insisté sur ce terme de République qui n'est pas premier chez Maeterlinck, même s'il est dès la première phrase.
Oui, alors L'abeille et le philosophe, ce livre dont on vient d'entendre cet extrait, enfin pas cet extrait, mais parler François Taolio, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée aussi, que j'ai lu. Entre autres, et en effet dans l'écriture, dans la narration, dans l'écriture du spectacle, c'était important qu'on ne sente pas que en effet la reine dirige tout. La reine est aussi une pondeuse et finalement elle a aussi ce rôle, c'est elle qui va pondre, voilà, c'est son rôle, et que les choses se font ensemble. Alors c'est aussi tout le mouvement de comment dans la mise en scène les choses se font, les acteurs font à vue les choses, les panneaux, l'ouvrier de la ruche à un moment donné, voilà, qui va rentrer aussi dans cette ruche, participer à ça.
Faire une petite description visuelle justement de ce qui se passe. On a compris les écrans, on a vu aussi que les choses étaient symbolisées. Les costumes sont très simples, hein. Il y a un système de brindilles pour les antennes. Justement, Marion Le Guével, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces costumes et de ce que l'on peut voir sur scène ? Il y a des parties modulables justement du décor qui avancent.
Oui, effectivement, il y a une scénographie qui a été créée autour de panneaux qui représentent une sorte d'alvéole géante. Et puis après, il y a des plus petites alvéoles qui viennent se greffer. Et en fait, le ballet des abeilles se trouve aussi d'ailleurs à travers le mouvement de tous ces panneaux et de l'organisation de ces panneaux qui sont glissés sur une toile peinte. Il y a une toile également qui est une surface de projection derrière ces panneaux. Et en fait, voilà, c'est une construction, c'est la construction d'une cathédrale qui arrive au fur et à mesure et qui se déplace. Et en fait, on fait pendant tout le spectacle, on déplace ces panneaux de façon à ce que les abeilles soient portées de façon différente. Elles glissent à l'intérieur, donc on les devine, on peut les deviner, elles sont portées, elles passent par-dessus. Donc elles se glissent et s'entremêlent autour de ces panneaux qui sont faits dans une matière qui s'appelle la tarlatane, pour être très précise.
Relativement transparent,
et légèrement transparent, avec un léger grillage. Donc c'est très fragile et fort, comme peut l'évoquer une ruche. C'est une construction, quand on la regarde, qu'on voit parfaite. La forme de l'alvéole est une forme, je trouve, qui évoque la solidité et la puissance, et en même temps fait d'une matière très fragile, très délicate, qui peut s'écraser très rapidement. Et c'est d'ailleurs, je trouve, un joli parallèle avec ce qu'on peut faire de la nature ou pas. Donc,
La question de l'observation, c'est aussi une question un peu de projection. Céline Schaeffer, c'est l'homme qui observe cette nature. D'ailleurs, il y a une explication aussi un peu à plat du fonctionnement de la ruche, parce que c'est aussi un spectacle pour enfants et qu'il faut aussi donner les clés du fonctionnement et d'une année dans la ruche, mais il y a cette nature symbolique, un peu peut-être projective, des modèles politiques et de leur fonctionnement, un fonctionnement qui est assez économique aussi.
Oui. Après, je n'ai pas souhaité rentrer plus que ça, parce que j'ai voulu rester vraiment dans cette plongée de la vie de l'abeille, avec, en étant portée par toutes ces choses, ces réflexions, sur la société. Mais j'ai vraiment quand même voulu être à la fois le plus juste possible par rapport aux informations qu'on ne connaît pas forcément quand on ne connaît pas la vie de la ruche, la vie de l'abeille, et à la fois de rester aussi dans cette force poétique. Ça, c'était très important. Après, en effet, ces choses-là, ce miroir, ces différents modèles, ils sont dans des petites choses aussi de mise en scène. Par exemple, c'est l'ouvrière qui pose la couronne sur la reine, parce qu'en fait, la reine naît reine parce que les ouvrières ont construit et ont mis en place des alvéoles de reine. Et voilà, donc c'est Marion qui met la couronne à Paulina quand elle naît, parce que, voilà, et à un moment, quand avant que la reine tue ses sœurs pour être l'élue, parce qu'elle fait comme ça, c'est Marion qui lui prend la main et qui la met sur le bâton avant de lui dire « tu dois conquérir ton royaume ». C'est-à-dire que les choses se font ensemble, et voilà, c'est par des petites choses aussi comme ça, presque invisibles, que ça se raconte.
Alors, il y a aussi cette multitude à raconter, puisque les ouvrières sont nombreuses, que il y a une division du travail qui est assez importante et efficace. Comment est-ce que vous avez représenté la multitude en étant peu nombreuses, finalement, sur scène? Peu nombreux?
C'est vrai que soit je travaillais avec 50 000 acteurs, soit je m'étais avec deux acteurs, deux actrices, je pouvais tout raconter. C'est-à-dire, je pouvais raconter la reine, les faux-bourdons, les trois rôles qu'elles prennent dans la ruche, faux-bourdons, reine et ouvrière. Donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est vrai que je trouvais que c'était plus intéressant, finalement, de rester dans ce deux qui peut tout raconter. On a travaillé sur des choses symétriques, parallèles, voilà. Et puis après, il y a tout ce travail magnifique que Peter Chaise, compositeur musique, a fait. Et la multitude, pour moi, je l'entendais beaucoup à travers ça aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas, enfin, c'est impossible de représenter 70 000, voilà, concrètement dans un seul espace au théâtre, c'est très compliqué. Et il fallait, et elle passe dans le son, elle passe dans toutes ces ambiances et cette composition musicale que Peter a fait.
Marion Le Gavel, ça passe aussi par la communication avec votre partenaire. Vous êtes dans une sorte de symétrie. Oui. En échange d'informations, quasi en bouche à bouche par moment.
Oui, alors ce fameux bouche à bouche s'appelle scientifiquement la trophallaxie. Et oui, c'est une proximité, parce qu'en fait les abeilles se passent le pollen qu'elles ont passé dans leur estomac avec des sucs, donc elles se le passent de bouche en bouche pour le transformer en miel. Mais j'étais justement en train de me dire, concernant la multitude, qu'effectivement il y a le travail de Peter Chaise au niveau sonore qui a raconté la multitude à travers une création musicale. Et puis, en fait, il y a les spectateurs aussi qui viennent créer une multitude. Je dis ça parce qu'on le ressent, en fait, là, ça fait... On s'est posé cette question de la multitude, hein. Comment... Il y a aussi le travail de vidéo à des moments qui vient projeter dans les alvéoles une multitude de larves, donc on la sent arriver aussi à travers ce biais-là. Et puis là, depuis deux jours que l'on joue, en fait... On voit 13 000 yeux qui nous regardent, donc en fait la multitude est là, tout le temps.
Il y a toujours cette double représentation un peu métaphysique aussi de cette nature. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle les abeilles sont un objet de création. L'apiculteur et artiste Olivier Darnay en parlait sur France Culture, c'était le 7 janvier 2007.
En gros, comment est-ce que je m'y prends? J'imprime un mot en miel sur un trottoir. Je remplace l'encre par du miel. J'imprime un mot, le mot butin, par exemple. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, on se retrouve avec plein d'abeilles sur le mot. Ouais. Elles reviennent à leur butin et elles se servent, c'est leur butin. Donc, une première abeille se pose, je la marque avec un point de couleur, elle identifie cet endroit. Une fois qu'elle s'est rempli le jabot, hein, cet estomac social, elle a un estomac social, l'abeille. C'est intéressant. Non, mais elle a deux estomacs. Un estomac pour elle et un estomac social, qui est l'estomac de la collectivité. Ça, c'est une chose intéressante. elle découvre ce mot de miel sur un trottoir. Elle fait cette récupération de butin. Je la marque d'un point de couleur. Elle retourne à la ruche. Et elle communique cette information qui est de dire, non pas il y a un mot de miel à 2 km de la ruche à côté de la gare du Nord, mais qui consiste à dire, au sortant de la ruche, tu prends un angle de 38 degrés par rapport au soleil et tu tomberas à peu près à 2 km sur ce mot. C'est ce qu'elle fait avec cette danse en huile qui est donc un langage chorégraphique. Et donc je vais apprendre aux gens en fait cette danse. Et je vais apprendre surtout à décoder cette danse. Et donc, la façon que j'ai de faire ensuite, c'est de... Par exemple, je donne rendez-vous le lendemain à 15h sur la place de la République à une quinzaine de personnes. Donc, ce point de rendez-vous devient le centre. C'est comme si c'était la ruche, véritablement. Et puis, je partage quelque chose que j'aurais donc trouvé dans cette zone de butinage qui est 2 km depuis ce point. Donc, si j'ai trouvé des loukoum, par exemple, ou un baba au rhum, ou un pâté de lapin dans le quartier, chez un charcutier, je coupe cette tranche de pâté de lapin en 12 parts égales. Chacun goûte le butin, donc j'organise ce partage de butin et ensuite en mesure, en décodant ma danse, de trouver la direction à prendre ou sortir de la ruche jusqu'à trouver cette tranche de pâté de lapin dans la vigne.
Marion Lievel, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit sur justement cette danse des abeilles, cette danse qui est en réalité un langage codé extrêmement précis? Est-ce que vous avez travaillé sur cette observation aussi des danses naturelles des abeilles, ou est-ce que la symbolisation s'est faite d'emblée, de manière détachée?
On est vraiment parti de leur fonctionnement. Alors, on n'a pas pris 38 degrés
depuis le soleil,
mais en tout cas, l'idée de l'angle, de la précision, de la danse en 8, et en plus, la danse en 8, ça évoque vraiment un cycle naturel qui ne se termine pas et qui est très important et qui est très inspirant et qui est très porteur. Y a aussi cette idée de revenir toujours au même endroit. Ça a guidé aussi beaucoup l'écriture et du spectacle et de la chorégraphie. C'est revenir, se ressourcer, revenir dans la multitude entre elles pour repartir et revenir à la source toujours.
Avec même l'idée que la ruche fait partie de leur corps, puisque finalement il y a comme un prolongement. Exactement. Entre l'abeille et sa ruche. Exactement. Et l'abeille et sa reine.
Ouais, et puis c'était aussi une volonté de Céline. On parlait des panneaux tout à l'heure qui sont des alvéoles avec lesquels on a aussi physiquement essayé de faire corps. C'est-à-dire que voilà, il y a l'ouvrier du drame, l'ouvrier de la ruche, qui lui est un observateur, mais nous, les deux abeilles et le faux bourdon, on a vraiment tenté d'être toujours en symbiose avec cette matière et de sentir la matière. Il y a des parfums aussi dans le spectacle. On a essayé de donner quelque chose de très organique. Et puis pour revenir à la danse et au langage chorégraphique, on a compris que c'était un GPS, quoi, que l'abeille était un GPS et qu'elle nous guidait dans l'écriture, vraiment.
Céline Schaeffer, sur cette question des sens utilisés, alors il y a un travail olfactif, effectivement, des émanations de parfums arrivent dans le public. Pendant le spectacle, il faut rappeler que c'est un spectacle jeune public, qui est dans la sélection jeune public du festival. Donc il y avait ce désir aussi de créer un spectacle qui soit aussi sensoriel.
Alors c'est vrai que, en dehors de l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck, j'ai visité des ruches. Voilà, je suis allée ouvrir aussi, accompagnée d'apiculteurs des ruches, et j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et de toutes les discussions que j'ai eues aussi avec tous ces apiculteurs, ça m'a aussi beaucoup nourrie, en plus du texte de Maeterlinck, sur cette approche, parce que la ruche, c'est 35 degrés, c'est une chaleur, c'est 70 000 abeilles sur des rayons extrêmement fragiles. Il y a une chaleur, une odeur très forte quand on ouvre la ruche, dont on s'attend pas forcément quand on n'a pas ouvert de ruche, l'enfumoir, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi raconter cette vie des abeilles, c'était aussi être au plus près, finalement, de ça. Et d'ailleurs, le spectacle s'est écrit aussi à partir de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a la narration, mais tout, justement, les panneaux, la scénographie qui a été faite avec Élie Barthez, Lola Sergent, c'était indispensable. C'est-à-dire que ça pouvait pas s'écrire en dehors de la création de l'espace, parce que tout devait faire corps. Et Lola, quand on parlait, on échangeait sur les costumes, on disait, oui, il faut qu'elles aient aussi la matière qu'on a sur les rayons, il faut que les rayons fassent corps avec la chapelle, il faut que la lumière fasse corps avec la vidéo. Et j'ai eu cette chance magnifique de rencontrer aussi cette équipe, parce que finalement, toutes les visions que j'avais, moi, dans le texte de Maeterlinck, il fallait que je les mette en œuvre, et ça pouvait que passer en m'entourant d'une équipe artistique, et c'est ensemble que les choses se sont faites.
Et voilà. Metterlin qui décrit les abeilles comme très remuantes. Il y a cette idée de remuer à l'intérieur d'un périmètre bien tracé, mais c'est aussi le lien avec tout le reste, évidemment la pollinisation, le lien avec le reste de la nature, les fleurs, le rôle indispensable des abeilles, ça aussi c'est une source d'inspiration et de métaphore.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans le texte de Metterlinck, il parle du lien avec les fleurs, un petit peu moins, il ne parle pas de la pollinisation telle qu'on en parle, il ne parle pas de la menace, de l'abeille en danger non plus, mais au-delà du miel, au-delà de ce qu'elles font, voilà, moi c'était très important en effet de raconter ça, et pareil, ça devait venir de l'espace, et que chaque chose était liée, d'ailleurs à un moment donné, mais ça fait partie de la magie du théâtre, parce que finalement quand on fait du théâtre, il y a un côté très artisanal aussi, comme ce que fait la nature fait les choses... elle se fait méthodiquement, patiemment, et à un moment il y a les œufs comme ça que la reine a laissé sur le plateau, et puis il y a ce ciel étoilé, et tout d'un coup je me disais de l'œuf à l'étoile tout est lié, on entend de la fleur à l'étoile tout est lié, mais voilà, il y a quelque chose qui se relie, pour moi c'était très important d'être dans ce rapport justement au sens, dans tous les sens du terme, mais la ruche.
On va en faire entendre un petit extrait du texte de Metterlinck, quand même, c'est l'auteur. On va écouter Jean-Claude Amezen qui en parlait sur France Inter le 21 avril 2012.
Elles sont l'âme de l'été, l'horloge des minutes d'abondance, l'aile diligente des parfums qui s'élancent, le murmure des clartés qui tressaillent, le chant de l'atmosphère qui s'étire et se repose. Et leur vol est le signe visible, la note musicale des petites joies innombrables qui naissent de la chaleur et vivent dans la lumière. À qui les a connues, à qui les a aimées, un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs.
On sent cette veine poétique qui travaille aussi le texte, qui est pourtant un essai plutôt scientifique, avec toute cette sémantique, ce vocabulaire qui appartient au monde des abeilles, la Vierge laborieuse, les héroïques ouvrières, les filles du soleil. Vous avez eu envie aussi de jouer par le texte avec ces appellations, ces évocations qui parlent de leur rôle, oui, à chacune, de leur sacrifice parfois.
Oui, sacrifice cruel de la nature. Oui, bien sûr, c'est le rapport au conte. Quand je parle de la République, je dis c'est comme un conte documentaire, c'est cette dimension du conte pour moi qui était très importante, parce que cette notion de merveilleux, c'est-à-dire que je voulais aussi qu'on raconte cette histoire, même si aujourd'hui elle est terrible et qu'elle est très inquiétante, qu'on reste dans cette chose du merveilleux, parce que je pense qu'on ne prend jamais aussi soin de ce qu'on aime et de ce qui nous émerveille, et qu'il fallait rester dans cette lumière qu'est la ruche. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pris un peu au pied de la lettre finalement aussi tous ces mots et tout ce que renvoyaient toutes ces métaphores de Metterlinck, j'ai pris au pied de la lettre. Voilà, il parle de l'azur, qu'elle fend l'azur, qu'elle rentre dans l'espace bleu. Tout d'un coup, je me dis c'est la sortie de la reine, c'est le bleu. C'est la peinture, c'est le ciel bleu.
Voilà. Même si au milieu du bleu arrive l'écran noir, la fumée, la question écologique, la disparition, y a un grand écran qui diffuse des noms de produits toxiques qui tuent les abeilles peu à peu. C'est une scène relativement importante, un peu effrayante, en tout cas impressionnante. C'était l'idée, oui, Céline Schaeffer, malgré la présence d'un jeune public, de créer quand même une émotion assez dense sur ces questions écologiques.
Oui, bien sûr. Et en même temps, dans cette scène, il y a toute cette série de noms d'abeilles, parce qu'il n'y a pas que les abeilles sociales, il y a aussi les abeilles sauvages qui pollinisent et qui sont celles-ci, qui sont en disparition, d'ailleurs, plus que les abeilles des ruches l'apiculteur s'occupe, donc qui existent grâce à eux. Et c'est vrai que j'avais envie de mettre en parallèle justement cette chose très douce dans cette litanie de mots, de tous ces noms d'abeilles, du bourdon terrestre en passant par l'abeille jaune, et à côté de travailler justement aussi ces mots, parce que finalement quand on regarde ces noms qu'il y a dans ces bouteilles de pesticides, ils font peur. ils sont imprononçables, ils sont durs, et ça m'intéressait de travailler la scène aussi comme ça.
Alors bon, pour savoir la suite, on ira voir le spectacle. Merci à toutes les deux. Je rappelle que La République des Abeilles se joue à la Chapelle des Pénitents Blancs dans le cadre du IN jusqu'au 22 juillet et sera ensuite en tournée dans toute la France.
France Culture, à la grande table d'été, par Maëlys Bessery.
Et Blandine Masson est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Pour venir parler des fictions de France Culture. Alors bien sûr, Mépris littéraire de Thomas Bernhardt ce soir à la Cour Calvet.
En direct. En direct et en public ce soir. Mais, oui, il faut venir.
Mais quoi d'autre au menu ?
Alors, donc merci Maëlys de me proposer de venir parler des quelques jours qui nous restent ici au musée Calvet. Donc nous sommes dans cet exercice délicat qui est à la fois de faire de la radio en direct à partir de, enfin depuis lundi d'ailleurs, et puis aussi des productions en public pour le public qui peut venir à Avignon au musée Calvet. Et Dieu sait s'il est nombreux et qu'on le remercie ce public parce que on fait tout ça pour vous. Pour le public, pour les auditeurs, et ça fait plaisir quand le rendez-vous est là. Et donc ce soir, vous l'avez dit, Thomas Bernhardt, un grand auteur acide et pour ses 30 ans, les 30 ans de sa mort en fait, et nous enchaînons avec de très très beaux textes. En fait, je crois que c'est, enfin, je suis très heureuse des textes que vous pouvez entendre au musée Calvet. Demain, toute une soirée, toute une journée en fait, avec la SACD. Le matin à 11h30, un texte de Gwenaëlle Aubry. C'est une romancière philosophe qui est passionnée par le théâtre et dont le dernier roman,
La folie Elisa,
était vraiment porté comme ça en lui-même, toutes les potentialités du théâtre. Donc en fait, notre mission, c'est aussi d'amener des auteurs de la littérature vers le théâtre ou vers la radio. Et donc demain, le texte sera interprété à 11h30 par Judith Chemla, Marianne Denicourt, Céline Sellette et Marie-Sophie Ferdan, quatre femmes, quatre voix de femmes pour ce texte-là, le soir.
Avec une réalisation de Baptiste Guiton,
il faut le dire, absolument, qui était là aussi la semaine dernière pour Cyrano de Bergerac par Pierre Jourde.
Alors ça, c'était le matin, il y a aussi le
donc,
soir.
11h30, le soir à 20h. Alors là, c'est prise de risque, ce qu'on appelle une prise de risque. Mohamed El-Khetib, qui est un auteur très singulier et un metteur en scène dans ici en France, trouve que dans le théâtre français, il n'y a pas assez de risques. Voilà, on ne prend pas de risques. Alors nous, on va prendre tous les risques avec lui demain soir à 20h. Je sais comment on commencera, je ne sais pas comment on finira.
Cigale et vent compris.
Voilà, et on sera avec Éric Elmosnino. Hein, c'est un texte écrit pour Éric Elmosnino. C'est un texte que va interpréter Éric Elmosnino sur lui-même, en fait, sur sa propre vie. Et il a toujours le droit de dire à un moment, stop, c'est pas moi qui ai écrit le texte, donc je m'arrête. Mais donc, voilà. Donc demain, si vous voulez prendre des risques, vous écoutez la radio, puis vous venez au musée Calvet, et avec un très bel acteur, Éric Elmosnino. Et puis on terminera avec un texte de Frédéric Sontag, vendredi soir, qui a vraiment un très bel auteur de théâtre, et encore une fois, nous soutenons le théâtre, et c'est un auteur magnifique, avec une pièce qui s'appelle Benjamin Walter, qui est enregistrée avec de très grands acteurs, et aussi les élèves de l'ERAC. Et nous terminerons, c'est une réalisation de Sophie Haute-Picon, et nous terminerons samedi soir, alors en beauté, avec un texte totalement inédit de Jean-Luc Lagarce. Son éditeur, François Béreur, s'est rendu compte que Jean-Luc Lagarce, quand il avait 20 ans, a écrit une pièce qui s'appelle « Elles disent l'Odyssée ». Le thème parfait du festival. Et cette pièce, elle met en scène Pénélope, Ulysse. Et c'est extraordinaire parce qu'elle est la matrice en fait de toutes les autres œuvres de Jean-Luc Lagarce.
C'est une pièce inédite,
totalement inédite, qui est publiée pour l'occasion, qui sort là en juillet, donc même samedi en fait. François Béreur amènera les livres tout chauds au musée Calvet.
C'est les éditions Les Solitaires Intempestifs.
Voilà, ce sera une réalisation de Christophe Hoquet avec Adama Diop, que vous avez pu entendre ou voir dans Achille, magnifique Adama Diop. Avec Sofiane, donc c'était il y a deux jours, et d'autres acteurs, le texte de Mouajdi Mouawad. Donc Adama Diop sera Ulysse, et Emmanuel Lafont sera Pénélope, et tous les autres rôles sont joués par les élèves de l'ERAC. ERACM, il faut dire comme ça maintenant.
ERACM, ouais. Alors il faut aussi peut-être parler des musiques, il y a des musiques originales qui sont tout composées pour ces fictions. Je rappelle que même si certaines dates sont passées, elles sont toutes disponibles en réécoute sur le site de France Culture.
Tout à fait. Pour la musique, Arthur Gillette sera avec nous vendredi. Il y aura Sébastien Quincé demain matin avec...
C'est un lourd programme, mais je vous dis tout ça par cœur. Avec Gwenaëlle Aubry et Baptiste Guitton. Et nous terminerons...
Avec Mathias Delplanque.
Voilà, avec Mathias Delplanque. Voilà. Non, c'est vrai que ce sont des créations qui mêlent à la fois la musique, le texte. Ce sont vraiment des créations, parce qu'on les fait vraiment pour Avignon. Ce sont souvent des textes inédits, des acteurs, des musiciens. Voilà.
C'est et des collaborations avec des élèves. C'est une collaboration qui dure depuis un moment. Il y a eu plusieurs types de collaborations. Il y a ce travail aussi de transmission qui est fait dans les fictions. Blandine.
Oui, nous accueillons en fait depuis 5 ans une école en stage pendant tout le temps de notre présence à Avignon. Donc les écoles adorent venir avec nous. Cette année c'est l'ERAC, l'année dernière c'était l'ENSAT, le TNS est venu. L'année prochaine, on ne sait pas encore, je crois la Comédie de Valence, l'école de Saint-Étienne. Non, de, pas de Valence, l'école de Saint-Étienne. En général, les écoles veulent revenir à Avignon parce que on essaye de monter des productions où les élèves sont intégrés aux productions de sur le plateau, c'est-à-dire qu'en fait ils travaillent, on fait pas une production juste pour les élèves, ils travaillent avec des acteurs professionnels à chaque fois. Donc là il y a 3 productions où on a mêlé les élèves acteurs qui sont en 3e année, qui sont maintenant de jeunes acteurs qui vont travailler avec des acteurs bon, plus professionnels on va dire.
Merci voilà. Blandine Masson, on écoutera les fictions de France Culture de manière attentive.
Merci à vous, et on continue à vous écouter aussi à midi.
Merci.
Bonjour. Merci.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas heureux. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec le feu. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux. Et les nuages qui scindent le ciel. Un peu. Le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu. Il y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux. Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel vieux. Tu me ramènes quand je déraille les jours heureux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas du jeu. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le feu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec les dieux. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat mieux. Et les nuages qui scindent le ciel. En deux, le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas peu. Il y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas de pleurs.
C'était Nucléaire par O2N, extrait de son album O2N, au Bocara, sorti en 2018 sur le label Universel. O2N qui sera en concert le 19 juillet au Festival des Courons à Amboise et le 20 juillet à Carré pour le Festival des Vieilles Charrues. Il est 13h30 sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité l'actrice et réalisatrice Yamabas. la chapelle du Théâtre des Halles, la parole de Simone Veil, la philosophe, se fait entendre. Lumière puissante au milieu des lucioles, elle dénonce les humiliations que réserve à l'ouvrier sa condition, un lien à l'État qui se délite et le danger d'un déracinement. Une parole qui s'incarne dans la voix de la comédienne Yann Abbas et la musique de Michel Lacombe. Yann Abbas est aujourd'hui l'invité du portrait de la Grande Table d'été. Yann Abbas, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence par cette correspondance et cette phrase mise en exergue. Quand on a vraiment rêvé une chose, il faut finalement le faire. C'est ma morale à moi. Phrase de Simone Veil.
De Simone Veil, oui.
Absolument.
Je crois que c'est au moins le minimum qu'on peut dire pour les êtres humains, pour qu'ils puissent vraiment... au moins, voilà, des fois quand on rêve et on pense qu'on peut vraiment pas aboutir à quoi que ce soit, mais... Le rêve reste un rêve pour chacun, et pour nous, le théâtre aussi, c'est un rêve. Amener les paroles d'un auteur aux oreilles des spectateurs, c'est un rêve, et on essaye de le réaliser de la meilleure façon possible, en tout cas en ce qui correspond à nous et à nos sentiments et à notre imagination, ce qu'on a envie de faire. Et on trouvait cette phrase vraiment très inspirante, en fait, pour ce spectacle.
Alors, ce spectacle qui se joue seul, en tout cas deux seuls en scène, vous, disant les textes, des textes qui ont été soigneusement sélectionnés de Simone Veil, extraits de sa correspondance d'un côté et du déracinement de l'autre.
Alors, on s'est basé sur trois périodes et trois aspects, j'ai envie de dire, de la vie de Simone Veil. Malheureusement, elle est décédée très très jeune.
Donc 34
elle a,
ans, oui.
À 34 ans, exactement. Donc, on a essayé de travailler sur la période ouvrière. Donc, à savoir qu'à l'époque, elle était enseignante en philosophie à un âge très très jeune. Et elle a décidé de quitter l'enseignement pour aller essayer et de vivre la vie des ouvriers vraiment réellement physiquement pour se rendre compte de ce que c'est ce monde de l'esclavage et de cette misère humaine. La deuxième partie, c'est la spiritualité, donc la recherche de la vérité qui l'a accompagnée jusqu'à sa mort par une correspondance avec un père dominicain qui s'appelle le père Perrin, oui. Qui était aveugle de Marseille, avec qui elle a tissé une amitié très très forte et avec qui elle a parlé vraiment sans limite, en fait. Elle s'est jamais donné des limites de lui dire exactement ce qu'elle pensait, en fait, de la religion. Troisième période ou troisième aspect, c'est le regard politique de Simone Veil sur la société de son époque qui résonne pour nous aujourd'hui dans notre société, dans la politique qu'on vit d'une manière quand même vraiment assez, assez incroyable.
Sur la question de l'enracinement.
Sur la question de l'enracinement, qui d'ailleurs était le dernier texte qu'elle a écrit, parce qu'elle l'a laissé inachevé, comme la mort l'emportait malheureusement, juste à la fin de ce texte, qu'elle n'a même pas même pas corrigé.
Alors ce parcours-là, c'est le parcours du spectacle qui se déroule avec, à vos côtés, un musicien accordéoniste qui chante aussi des chansons occitanes. Alors pourquoi ce choix ? Alors certes, il y a un rapport avec Simone Veil, mais qui n'est pas immédiat pour le public.
Voilà, donc exactement.
Yann Abbas, racontez-nous ce choix.
Alors, si on connaît Simone Veil, ou si on a envie de connaître Simone Veil, là j'ai un livre qui s'appelle « L'inspiration occitane », avec deux textes. Des essais qu'elle a laissés pour vraiment, pareil, en fait, parler de l'Occitanie et de la tragédie occitane comme résultat aussi de ce déracinement que les pouvoirs du roi à l'époque ont causé au peuple occitan. Et elle avait vraiment une relation très, très, très tendre et très, très forte avec la tradition occitane et notamment toute l'histoire des Cathares et ce qui s'est passé aussi par rapport au massacre des Cathares et donc sa relation au catharisme et à sa spiritualité personnelle. Et donc on a trouvé vraiment que pour choisir la musique, je crois qu'on n'a pas pu vraiment imaginer ou rêver autre chose que rendre hommage à Simone Veil par l'amour qu'elle a porté à cette tradition qui a disparu, comme elle le dit De toute façon, cette culture a pris fin au XIIIe siècle et depuis, on n'a jamais plus entendu parler. Et donc aujourd'hui, il y a aussi les restes, il y a aussi l'héritage de cette tradition qui existe. Et on voulait, par le corps et la voix et les chansons et la musique de Michel Lacombe, rendre hommage à Simone Veil parce qu'on trouvait qu'il y avait une relation très très forte entre les deux.
Alors c'est aussi la question du territoire, c'est aussi la question locale et la question des communautés. C'était tout ça que souhaitait incarner justement cette musique.
Oui, parce qu'elle le dit d'ailleurs dans un passage de texte sur l'enracinement qu'on a dans le spectacle. Elle parle justement aussi de ce forme de déracinement qui est causée par ce qu'on appelle le déracinement géographique. Donc, les territoires qui ont cessé d'être des communautés existant par elles-mêmes, avec une culture qui leur appartenait, une beauté, une forme de liberté, de spiritualité, et qui tout ça a été remplacé par la notion de l'État. Et l'État, normalement, est venu, en fait, pour remplacer cette notion de ces petits territoires qui existaient à une époque. Après, il faut vraiment, je veux dire, approfondir. Là, c'est très minimaliste ce qu'on dit, et peut-être il faut pas que ça reste dans le terme juste du symbolisme en fait. Mais il faut vraiment, il faut rentrer dans le texte de l'enracinement qu'elle a écrit pour essayer de comprendre sa positionnement de la déracinement qu'on cause, que ça soit le déracinement culturel, déracinement et nation, déracinement ouvrier, déracinement paysan, déracinement géographique. Elle dit aussi de la déracinement culturel, des choses qui sont quand même vraiment assez importantes aujourd'hui.
Yann Abbas, quand on regarde votre parcours, on se demande comment vous en êtes arrivé à ce choix, et en même temps, palestinienne d'Israël, avec une histoire forte, avec le théâtre aussi, dès vos débuts, on imagine que ces questions-là, d'identité multiple, vous ont intéressé dès le départ, ces questions de déracinement.
Absolument, parce que franchement, quand j'ai lu Simone Veil, quand on a décidé de travailler avec Jean-Baptiste Sastre sur Simone Veil, au début, j'ai dit, mais pourquoi il me veut? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, avec une femme française qui appartenait carrément à l'histoire de la France? Et bon, il ne faut pas oublier que quand même, ça fait 30 ans que je vis en France et que je suis française aussi. Et que ça fait un moment avec Jean-Baptiste Sastre, quand on travaille sur les textes, on essaye aussi de se relier au texte, pas seulement par l'idée juste de voilà un autre spectacle ou un autre texte qu'il faut amener. C'est quelle est notre relation aussi par rapport à ce texte qui aussi représente notre travail et collaboration ensemble, qui à la fois relève aussi de notre attachement à chacun avec le texte sur lequel on travaille, dont l'auteur.
Un spectacle en emmenant un autre d'ailleurs, puisque vous avez travaillé précédemment pour Avignon, l'an dernier sur Bernanos.
Absolument.
Alors il y avait ce lien presque direct avec
Exactement.
Simone Veil.
Et c'est Jean-Baptiste Sastre qui a joué le texte, parce que c'était un voix d'un homme. Et d'ailleurs, c'est par Georges Bernanos qu'on a... presque Simone Veil s'est affirmée jour après jour, parce que les deux ont vécu presque pendant la même période, entre les deux guerres. Elle est morte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Mais par contre, Simone Veil a écrit une lettre à Georges Bernanos, qu'il a gardée sur lui jusqu'à sa mort, dans laquelle il lui dit tout le bien qu'elle pense de son livre « Les grands cimetières sous la lune », avec lequel il dénonce les actions de l'Église pendant la guerre d'Espagne. Et comme Simone Veil a aussi participé à la guerre, parce qu'elle a pris vraiment, elle s'est habillée comme une petite soldate et est partie se battre auprès des anarchistes espagnols. Et elle dit d'ailleurs à Georges Bernanos que malgré la différence, parce que les deux se situaient aux opposés de cette guerre quelque part, mais finalement ils dénonçaient la même chose. Et c'était ça qui était très important pour elle, de lui dire, et comment aussi tous les intellectuels, tous les écrivains de l'époque ont fermé les yeux sur ce qui s'est passé, et que le seul courageux qui a pu vraiment dénoncer cette guerre était Georges Bernanos, et elle voulait lui témoigner son respect et son admiration.
Alors il y a le choix des textes, un spectacle en emmenant un autre. Il y a aussi pour vous l'évolution de votre carrière qui vous a fait incarner à plusieurs reprises une carrière internationale. Vous avez joué avec Spielberg, vous avez joué avec beaucoup de réalisateurs du Moyen-Orient aussi, vous avez joué en France avec Chéreau. Est-ce que justement ce lien avec des femmes combatives que vous avez pu incarner, justement une femme violée par son mari, une militante du FLN, beaucoup de rôles qui incarnaient une forme de résistance. Yamabas, est-ce que pour vous, il y avait ce lien-là aussi avec ces textes, ou est-ce que c'est le hasard de ce que l'on vous propose ?
Non, pas indirectement, et à la fois, est-ce que vraiment, c'est quoi le hasard ? Donc, j'essaye de ne pas vraiment trop réfléchir à ça. Parce que, encore une fois, au théâtre, c'est vrai que ça fait 7 ans que je travaille avec Jean-Baptiste Sastre, metteur en scène, acteur, avec qui j'ai fait des projets que j'ai l'impression s'inscrit un peu dans mon désir de ce que j'ai envie de faire artistiquement. Et la relation que j'ai tissée avec Jean-Baptiste Sastre était vraiment sur ce point de vue de relier l'art quelque part et les désirs et les rêves à une réalité dans laquelle on vit et auquel il ne faut pas fermer les yeux. On n'a presque pas le droit de fermer les yeux, et cette relation et collaboration artistique fait que théâtralement, effectivement, on est passé de Phèdre, un texte moderne, à Apollinaire, à Bernanos, à Simone Veil. Est-ce que hasard ou pas hasard, je préfère ne pas répondre, mais par contre, je pourrais dire que il y a une volonté vraiment de notre part aussi, sans aucune prétention, de faire connaître certains auteurs auxquels on fait la rencontre, nous, en tant que lecteurs, surtout Jean-Baptiste, parce que vraiment le côté lecteur, côté texte, pour moi, c'est Jean-Baptiste qui me la propose. Je crois pas que dans ma parcours personnel, j'aurais jamais pu découvrir Simone Veil ou Bernanos si ce n'était pas de cette collaboration qui existe entre Jean-Baptiste et moi, et même Apollinaire d'ailleurs, pour parler sérieusement. Et le fait qu'on a cette collaboration, c'est presque, en fait, c'est un rappel intellectuel qui s'inscrit notamment dans un rappel, j'ai envie de dire, réel, créatif, donc production, sur des projets qui relient notre pensée ensemble, mais qui relient surtout la connaissance littéraire de Jean-Baptiste a une envie qui se trouve à ce moment-là chez moi de me jeter, parce que j'ai l'impression, oui, que ça fait partie d'une continuité.
Yamabas, vous avez commencé à le raconter, l'histoire de Simone Veil, ça a été celle aussi de quitter l'éducation nationale pour partager la condition des ouvriers, de s'engager à l'usine, alors Alstom comme découpeuse, emballeuse à Boulogne-Billancourt, fraiseuse à Renault. Vous lisez ce passage de Bourges du 31 janvier 1936, est-ce que vous pourriez nous en faire écouter un peu?
Oui, je l'ai. Monsieur, vous jugez la manière dont je me représente les conditions morales de vie des ouvriers trop poussés au noir ? Que vous répondre sinon ? Vous répétez, si pénible que soit un tel aveu, que j'ai eu, moi, tout le mal du monde à conserver le sentiment de ma dignité. À parler plus franc, je l'ai à peu près perdu sous le premier choc d'un si brutal changement de vie, et il m'a fallu précisément le retrouver. Un jour, je me suis rendu compte que quelques semaines de cette existence avaient presque suffi à me transformer en bête de somme docile, et que le dimanche seulement, je reprenais un peu conscience de moi-même. Je me suis juré de ne pas sortir de cette condition d'ouvrière avant d'avoir appris à la supporter, de manière à y conserver intact le sentiment de ma dignité d'être humain. Je me suis tenu parole, mais j'ai éprouvé jusqu'au dernier jour que ce sentiment était toujours à reconquérir, parce que toujours les conditions d'existence l'effaçaient et tendaient à me ravaler à la bête de somme. Il faut me pardonner si je prononce le mot de chef avec un peu trop d'amertume. Il est bien difficile qu'il en soit autrement quand on a subi une subordination totale et qu'on n'oublie pas. L'obéissance à un homme dont l'autorité n'est pas illuminée de légitimité, c'est un cauchemar. Dépendre de nos volontés étrangères, c'est être esclave. Vous exagérez un peu en supposant que je mets à votre compte un passif écrasant et un actif nul. Ce que je mets au passif, je le mets au passif de la fonction plutôt que de l'homme. Et à l'actif, je sais tout au moins qu'il y a un maître des intentions. J'admets volontiers qu'il y a aussi des réalisations. Je suis seulement convaincue qu'il y en a beaucoup moins et d'une portée beaucoup moindre qu'on ne se trouve amené à croire quand on voit les choses d'en haut. On est très mal placé en haut pour se rendre compte et en bas pour agir. Je pense que c'est là, d'une manière générale, une des causes essentielles des malheurs humains. C'est pourquoi j'ai tenu à aller moi-même tout en bas. Et y retournerai peut-être. C'est pourquoi aussi je voudrais tant pouvoir, dans quelque entreprise, collaborer d'en bas avec celui qui la dirige. Mais c'est sans doute une chimère. Pour moi qui ai choisi délibérément et presque sans espérance de me placer au point de vue de ceux d'en bas, il est réconfortant de pouvoir m'entretenir à cœur ouvert avec un homme tel que vous. Cela aide à ne pas désespérer des hommes, à défaut des institutions.
Merci beaucoup, Yama Bass. C'était un extrait de la correspondance avec Victor Bernard, hein, ingénieur et directeur des usines Rosières. C'est au début du spectacle. Et elle raconte effectivement l'absence de considération. Il est question du chef, il est question de dignité. Les textes arrivent, commencent par ce biais-là, sans qu'il n'y ait d'écriture autour. Les textes ont été découpés, agencés, et puis il y a la musique. Il n'y a pas d'explication, d'emballage, d'écriture autour.
Non, la seule chose qu'on fait, en fait, en début du spectacle, juste on donne un petit rappel du fait que ça a été des lettres, une longue correspondance avec ce monsieur, et après avoir essayé de publier un article qui était adressé aux ouvriers, d'ailleurs, dans un journal de ce monsieur, pour les ouvriers de l'usine, hein, qui s'appelait « Entre nous » à l'époque. Et donc, ce directeur a refusé la publication de cet article. Et à partir de cette correspondance, elle a vraiment tissé une sorte de... gérer une sorte d'amitié littéraire par une correspondance de ses lettres où elle essaye de lui expliquer, d'une part, son expérience dans l'usine elle-même, de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a témoigné.
Et de le convaincre.
Et d'essayer de le convaincre que son article était très important pour aider à élever les ouvriers à leurs propres yeux. Parce qu'elle lui reproche, au début d'ailleurs, elle lui reproche de fait que, je répète vos propres termes, vous m'avez dit qu'il est difficile d'élever les ouvriers. Et à partir de là, elle part dans un combat vraiment pour essayer de le convaincre que son article était... pas un article qui venait pour élever les ouvriers d'une manière où il doit penser qu'elle est en train de susciter les ouvriers à une révolte ou à une sorte de révolution contre les chefs, mais à la fois elle lui explique comment, pour elle, les rapports d'égalité, les rapports des forces, la question de chef et d'ouvrier, c'est une question de placer les choses dans leur contexte humain. Et de savoir qu'une collaboration entre le haut et le bas, c'était le seul moyen d'exister et d'être efficace dans un monde de production industrielle.
Alors avec Yama Bass, cette phrase qui résonne particulièrement, c'est ce constat que l'oppression conduit paradoxalement non à la révolte, mais à la soumission. D'ailleurs, cette phrase-là, vous la faites particulièrement résonner dans le spectacle. Là, on sort même du domaine politique, c'est la philosophe qui prend la parole.
Oui, absolument. Et je crois vraiment, c'est pas un hasard que d'ailleurs elle voulait vraiment essayer ce que c'est physiquement et moralement
en faire l'expérience,
de vivre ça exactement, parce que d'ailleurs elle fait une critique au marxisme d'ailleurs par rapport à l'engagement auprès de prolétariat, en disant que comment on peut parler du prolétariat si on n'a jamais mis les pieds dans une usine. Et pour elle, elle pouvait pas en parler de quoi que ce soit sans avoir vraiment vécu physiquement et réellement, moralement, cette expérience. Et quand je dis vécu, c'est pas juste je vais le matin et je rentre le soir chez moi. Elle a décidé pendant un an de consacrer sa vie à ça. Même ce qu'elle gagnait à l'époque, elle le donnait aux gens qu'elle avait besoin, les gens qui étaient dans le besoin. Et elle a vraiment, réellement, donné son âme, en fait. Parce que l'âme pour Simone Veil est quelque chose de très important. Elle a donné son âme à cette expérience pour pouvoir écrire par la suite quelque chose sur cette expérience.
Alors Yamabas, comment est-ce qu'on fait résonner ce texte, particulièrement à Avignon, dans une chapelle, un lieu religieux? Alors c'est pas sans rappeler non plus le lien de Simone Veil particulier à la spiritualité. Comment est-ce qu'on le fait résonner justement nature, sans rien, juste des lectures qui n'en sont pas vraiment? D'ailleurs, vous n'avez pas de papier à la main, le texte est donné.
Oui. En fait, c'est encore une fois, c'est vraiment un désir de travail artistique de la part de Jean-Baptiste aussi. C'est que quand on s'attaque à des auteurs de cette nature,
cette trempe,
oui, et de cette force, c'est qu'il faut qu'on s'écrase face à eux. On ne peut pas amener notre gueule, j'ai envie de le dire, et ni notre ego avant les mots eux-mêmes et la notion et la conception de leur écriture et de leur littérature. L'idée, c'est de rester dans une simplicité pour pouvoir vraiment donner aux mots d'exister et de ne pas avoir l'attention du public sur des choses qui sont de l'ordre des effets. D'ailleurs, Simone Veil aussi détestait les effets, parce que les effets, pour elle, c'était couvrir plutôt et camoufler la vérité. Et donc, pour continuer à rester dans la vérité de ces auteurs, l'idée, c'était de minimaliser toutes sortes des idées qui viennent s'imposer sur le lieu scénique pour pouvoir donner la force à la parole elle-même.
Alors, il n'y a pas d'effet, mis à part la musique qui vient vous aider à reprendre votre souffle. C'est quand même un spectacle qui repose sur votre voix pendant 1h30. Mais il y a cette histoire de Luciole. Alors, c'est quoi cette histoire de Luciole, Yamabas? Qui n'en sont pas d'ailleurs, hein.
Ce n'est pas des lucioles fluorescentes.
En fait.
Ouais. Ce n'est absolument pas des lucioles. L'idée de Luciole était venue au départ dans une idée de Jean-Baptiste Sastre qui, à comparer presque Simone Veil à une luciole, en fait, qui arrive un temps très court, éclairer un entourage naturel d'une façon vraiment magnifique et disparaître. Et il avait l'impression, et il a donné cette impression, en fait, il s'est donné cette impression de Simone Veil. Donc à partir de là, il a essayé de connecter aussi Simone Veil à sa relation avec l'art et la science, et qui pour elle, la continuité de la grâce sur terre, de cette beauté en fait qui s'inscrit vraiment dans la grâce. Et à partir de là, avec l'aide des chercheurs comme Marcel Coquen et Fabien Verfaillie, qu'il a rencontré à Paris, ils ont commencé à réfléchir à la meilleure façon de pouvoir amener quelque chose de la nature et amener un éclairage naturel dans le monde et dans l'entourage scénique de Simone Veil, de cette parole, pour rendre hommage à cette femme qui était très proche de la nature, très proche de la beauté, et qui la beauté pour elle était une vertu presque divine.
Alors il y a ces systèmes de plaques, de caissons.
Et donc ils sont arrivés vraiment à avoir cette création artistique par des plaques où à l'intérieur il y a une bactérie inoffensive qui vit, qui vient des fins des abysses, de fond des abysses, et qui se prépare tous les jours avec des souches, avec une préparation spéciale dont je ne serais incapable de vous dire, mais on a un texte qui, pour ceux qui les intéressent, qui raconte de Marcel Coquen d'ailleurs, qui l'a écrit avec Fabien, pour expliquer un peu le processus qui a été fait dans cette recherche avec Jean-Baptiste pour arriver vraiment à avoir ces plaques qui finalement vit avec Simone Veil un nombre incalculable des bactéries qui vit sur scène avec cette parole et qui éclaire ce moment de 1h20, 1h30 de spectacle avec la musique d'ailleurs, et c'est bien que vous le dites, qui sont une forme, les parties de musique, ils sont une forme d'une respiration intérieure de cette femme parce qu'on est dans un moment où elle réfléchit à ses écritures. Donc elle était en train d'écrire sa correspondance. Et cette musique est juste une inspiration et un souffle intérieur.
Merci Yamabas, je rappelle que l'on peut aller voir le spectacle Plaidoyer pour une civilisation nouvelle, mise en scène par Jean-Baptiste Sastre au Théâtre des Halles jusqu'au 28 juillet. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Pascaline Bonnet, Alexandra Brouillet, Chouchane Gergaillon, Lou Le Joli et Julien Rosa. Réalisation Marie Placé, merci à toute l'équipe technique. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site franceculture.fr.